Oula, je vous écoute. Alors, Madame d'abord, alors. Ah oui, non, c'est alors les chirurgiens en ont discuté. Moi, je suis chirurgien adulte, donc je n'ai pas l'expérience de la chirurgie pancréatique chez l'enfant. Mais la chirurgie pancréatique chez l'enfant, c'est anecdotique, c'est-à-dire c'est fait dans des situations très exceptionnelles. C'est, on vous le disait déjà, le diagnostic est fait à partir de l'âge de 10 ans. Enfin, les premiers symptômes en moyenne sont l'âge de 10 ans, donc c'est jamais avant 10 ans parce qu'on n'a jamais de symptômes. Le diagnostic est fait plus tardivement. Et là, c'est vraiment des décisions individuelles. Je ne peux pas vous dire, ça doit se faire à partir de 17 ans et demi. C'est-à-dire, ça vraiment dépend des personnes. Il y a des gens, et là on vous le montrait tout à l'heure, qui ont leur premier symptôme de pancréatite chronique héréditaire à 80 ans. Et finalement, tant mieux pour eux, ces gens ne seront jamais embêtés, jamais en tout cas par le chirurgien. Ensuite, il y a des gens qui, à 17, 18, 19 ans, ont un pancréas qui est déjà extrêmement abîmé par la maladie. Et je vous disais, la chirurgie fait très peur aux patients, mais aussi fait parfois très peur aux médecins qui n'en ont pas l'expérience ou qui ont tous une expérience limitée de cette maladie. Même nous, spécialistes, on ne prend pas en charge des centaines et des centaines. Et donc, le gastro-entérologue, le médecin traitant, a très peur de la chirurgie pancréatique et souvent dit... Ce sera en dernier recours. Et c'est là où c'est peut-être parfois l'erreur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire la chirurgie après 20 ou 30 ans d'évolution douloureuse, parce qu'on ne croit plus rien. Et c'est vraiment là tout l'intérêt d'être pris en charge par des gastro-entérologues qui connaissent, parce que je pense que Philippe Lévy a probablement moins peur de la chirurgie pancréatique, dans un centre expert où il la sent très bien, il connaît les bénéfices et les risques de cette chirurgie, il a probablement moins peur que le gastro-entérologue qui travaille avec des chirurgiens qui en font moins ou qui ne réfèrent pas. Voilà. Donc, il n'y a pas de véritable, je suis désolé, je n'ai pas de chiffres à vous donner. C'est vraiment au cas par cas et c'est vraiment des spécialistes, des gens comme à Cholet, comme à Beaujon, comme à Cochin, qui peuvent prendre en charge tous les jours très régulièrement ces patients qui ont la réponse à vous donner à une situation donnée. Pareil, la maladie, il n'y a pas des stades très définis, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont jamais d'obstacle biliaire, c'est-à-dire que les billes s'écoulent toujours, il y a des gens qui n'ont jamais d'obstacle duodénaux, il y a des gens qui ont une douleur qui est au premier plan, il y a vraiment, voilà, c'est très différent d'une personne à l'autre. Il y a quelqu'un qui a des gens, par exemple, qui ont un obstacle biliaire, et dont on leur met une prothèse, ça marche très bien, on enlève la prothèse, il n'y aura jamais de chirurgie. Et c'est vrai que les gens à qui on met tous les 2 ou 3 mois une prothèse, et ça pendant 5 ans, alors qu'on peut ponctuellement régler le problème par une intervention chirurgicale, voilà, alors l'intervention chirurgicale n'est pas toujours possible, mais là, ça a un intérêt. Il y a des gens qui ont des douleurs qui vont apparaître très tôt, ces gens font probablement, le jour où ils ont commencé à avoir des douleurs qui vont avoir un impact dans leur vie quotidienne, c'est ça qu'on... Finalement, une douleur, c'est tellement subjectif, il y a des gens qui sont durs au mal, d'autres qui le sont beaucoup moins. Ce qui est important, c'est l'impact ça, sur votre qualité de vie, c'est-à-dire que si ça vous empêche de travailler, si vous êtes... Et après, si ça vous empêche de travailler, d'avoir des revenus, d'avoir une vie de famille, si ça vous pourrit, cette douleur, il faut la prendre en charge. Si c'est des douleurs qui nécessitent des médicaments extrêmement lourds, comme la morphine, qui ont en soi des effets secondaires, c'est-à-dire quand vous prenez la morphine tous les jours... Sur le temps, il faut augmenter les doses, ça vous endort un peu, ça vous constipe, etc. Et dès que la douleur devient ce qu'on appelle morphino-dépendante, qu'on a besoin de morphine tous les jours, il ne faut pas rester dans cet état-là. Et c'est très probablement là où la chirurgie doit intervenir précocement. Et ce n'est pas après 10 ans de morphine que la chirurgie aura réellement une efficacité. La réponse qui est vraiment personnalisée. Il y a des crises, il y a différentes, là aussi il y a différents types de douleurs. Il y a les douleurs aiguës, de la pancréatite aiguë, où là pour le coup le chirurgien sur la pancréatite aiguë n'est pas toujours très bon, sauf si la pancréatite aiguë, il y a un obstacle dans ce canal. Là on peut aller soit enlever l'obstacle, c'est-à-dire qu'il y a des calculs, des cailloux qui sont des concrétions de mucus dans les canaux pancréatiques, si on peut les enlever par les voies naturelles. Quand le calcul est trop gros, qu'il y a plein de petits calculs, la chirurgie de dérivation que je vous ai montrée, on ouvre le pancréas, on enlève nous-mêmes avec nos pinces, nos doigts, les calculs, puis on fait une grosse dérivation, là on peut être très efficace. Ça dépend de la cause, là aussi, et là c'est très difficile, là sur il faut des examens, des scanners. Si la cause de ces douleurs récurrentes de pancréas aigu, c'est un gros obstacle au niveau de la tête du pancréas, une intervention qu'on appelle de frais, donc on enlève un peu de tête du pancréas où il y a de l'inflammation et des calculs, et on ouvre le canal, ça peut être très efficace. Donc voilà, mais c'est sûr que le jour on soigne, voilà, ce qu'on dit, c'est qu'on ne soigne pas des images, on ne soigne pas des scanners, on soigne des gens, et c'est vraiment l'impact qu'a cette douleur sur leur vie qui est important. Il y a des gens qui ont mal deux fois par an, ils prennent trois doliprane et c'est très bien. Il y a des gens qui ont mal tous les jours, qui sont en arrêt maladie, qui ont des adultes handicapés, là ça impacte leur vie familiale, sociale. Là c'est sûr que la chirurgie peut être une solution.
Le traitement de la pancréatite artérielle est chirurgical. C'est une minorité de patients qu'on opère. C'est 15-20% des patients qui, un jour ou l'autre, vont être des bons candidats à la chirurgie. Ce n'est pas, le traitement miraculeux. Le traitement de la pancréatite artérielle, en majorité, il est médical. Et le deuxième message qu'a fait passer Sébastien, qui est très important, c'est ce qui n'est pas acceptable aujourd'hui, c'est qu'un patient soit traité endoscopiquement parce qu'il est pris en charge par une équipe d'endoscopistes, chirurgicalement parce qu'il est pris en charge par des chirurgiens, ou rien du tout parce qu'il n'y a pas d'expertise locale qui permet. Tous ces traitements, c'est des traitements extrêmement personnalisés en fonction de tous les symptômes qu'on vient de vous parler, et la décision doit être prise par une équipe dans laquelle il y a des endoscopistes, des chirurgiens et des médecins, et des spécialistes de la douleur. Et c'est tout cet ensemble qui doit prendre la décision. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, tout le temps, c'est, on en discutait avec nous tout à l'heure, c'est que j'ai été pris en charge par les endoscopistes, j'ai eu 48 endoscopies. C'est pas possible. Donc il faut vraiment que ce soit une décision très personnalisée et multidisciplinaire.
Une question, vous avez une question, non?
Oui, c'était une réponse pour la dame. Notre fils nous a été opéré à 12 ans au CHU de Nantes. Et il y a 20 ans. Et il va très bien. Il a recommencé le sport 3 mois après. Et voilà.
Il n'y a pas de recette. Hein. C'est comme vous disait Philippe Lévy, c'est vraiment des plans qui sont très personnalisés. Et je crois là aussi, ce qui est très important, c'est la multicompétence. C'est-à-dire qu'un chirurgien seul ne peut pas bien prendre en charge une pancréatite chronique. Un gastro-entérologue seul, quelle que soit sa compétence, il n'est pas dans un réseau, s'il n'a pas, alors c'est pas obligé dans le même hôpital, mais il faut qu'il y ait un hôpital à côté ou qu'il connaisse les spécialistes. Et voilà, c'est des patients, donc on parle tout le temps entre nous, qu'est-ce que tu en penses? On fait des réunions qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaire, où on dit, on regarde avec les radiologues les images, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux faire? Tiens, ça c'est bien, mais voilà, c'est vraiment des dossiers dont on discute tout le temps parce qu'ils sont difficiles. On n'a pas de. Voilà, on n'est pas non plus parce qu'on a un bistouri que, comme vous le disiez, on peut régler 100% des problèmes. C'est une minorité de gens qui vont à la chirurgie. Il faut que ce soit suffisamment tôt lorsqu'il y en a besoin pour pas qu'il y ait eu une vie de souffrance derrière qu'on reste efficace. Mais ce n'est pas parce qu'on aura enlevé le pancréas très tôt dans la vie qu'on aura réglé tous les problèmes. On peut en créer parfois plus que ce qu'on en résout. Donc, vraiment, prudence sur la chirurgie, ce n'est pas une panacée, mais ça peut être très clairement quelque chose qui peut avoir des résultats assez intéressants.
Mais rejoindre ce que vous disiez, s'adresser dans des centres, c'est qu'on pourrait trouver tous ces spécialistes. Ce n'est pas toujours évident et d'abord de les trouver. Et autre chose, moi, à l'hôpital, c'est qu'on est un peu suivi sur Poitiers. Mais lors des crises, bon, il faut attendre, et après, ça se passe jamais. Il n'y a rien qui se passe. Et c'est énormément fatigant parce qu'on ne sait jamais comment on va arriver. La dernière fois, c'était quasiment 4 semaines d'hospitalisation simplement pour une crise. Et on se dit, mais là, on fait quoi? On va où? Et on ne sait pas forcément où s'adresser.
Non, c'est là. C'est tout l'intérêt de ces associations, de ces forums. C'est-à-dire qu'on parlait du forum de l'association. Après, le problème, c'est que c'est des maladies rares. C'est vrai qu'on ne peut pas diffuser l'un. Il y a des tas de maladies rares. Je veux dire, il y a des associations de patients pour des tas de maladies rares comme ça. Et donc, c'est vrai que faire diffuser toute l'information auprès de tout le monde, mais c'est l'intérêt de ces associations, c'est que sur le forum, tiens, j'habite à tel endroit, nous, je veux dire, enfin, on vient ici, on est joyeux, vous avez nos adresses internet, vous habitez à l'autre bout de la France. les gens qui connaissent bien ces pathologies, on se connaît tous, et donc vous me dites, ben, j'habite à Toulon, où est-ce que je peux aller à Marseille pour bien me faire prendre en charge, et vous avez tous vos expériences, vos réseaux au sein de ces associations, et donc les forums sont aussi là pour ça, et vous dites, ben, tiens, va voir Philippe Lévy, il connaît bien tel, il te conseillera, c'est-à-dire, on est disponible, et les informations, c'est sûr qu'elles sont difficiles à avoir, mais elles ne sont pas impossibles, soit en s'adressant aux gens qui connaissent, soit par les forums, etc.
Ça veut dire que si un jour on a un problème, on peut vous envoyer un mail et avoir.
Je vais même vous donner le portable de Philippe Lévy qui est le. Non mais voilà, on est. Alors, vous n'êtes pas des millions en France, et donc voilà. Si un jour un souci, vous nous adressez nos mails. Et Philippe Lévy qui habite à Paris au 22 rue de. Vous accueillera volontiers.
Non mais on plaisante, mais on sait que c'est très difficile d'avoir.
Non mais on est bien sûr disponible. Vous envoyez un mail, dit j'habite Toulon, j'ai ce problème. J'ai dit moi, on est tous disponibles pour vous dire, ben c'est peut-être l'endroit où il faut aller, la telle personne vous fera bien cette porte, etc. Toulouse, Marseille, Beaujon. Cholet.
Oui, bonjour à tous. Médicacy, je suis gastro-entérologue à l'hôpital de Cholet. Donc, en fait, on suit, nous, beaucoup de patients qui ont la pancréatite chronique familiale. Alors, on n'a pas l'omni-compétence que peut avoir, par exemple, l'hôpital de Beaujon, mais on travaille toujours en collaboration. C'est-à-dire qu'on est capable de faire de l'endoscopie thérapeutique ici. Et quand on a, en fait, des situations complexes qui relèvent, en fait, d'un traitement particulier, on n'hésite pas à ce moment-là à en référer à un centre référent, je dirais. Mais rien n'empêche qu'éventuellement vous ayez un suivi simple à partir d'un hôpital périphérique, comme le nôtre, hein, où on connaît à peu près bien la maladie, on connaît également nos limites, on sait que quand il y a un problème, il faut que le dossier soit vu en discussion pluridisciplinaire avec un chirurgien, un endoscopiste thérapeutique, et voilà.
Ce sont des dossiers difficiles, donc déjà il faut vous rencontrer, il faut vous interroger, savoir qu'est-ce qui se passe. Ensuite, sur le plan de la radiologie, ce sont aussi des dossiers compliqués. On ne peut pas discuter de la chirurgie pancréatique en particulier ou de l'endoscopie si on n'a pas un très bon scanner, si on n'a pas une très bonne IRM. Il faut qu'on les voit nous. Hein, les radiologues ne connaissent rien au pancréas, hein, rien du tout. Un radiologue est capable de vous dire vous n'avez pas de nez au milieu de la figure. En regardant l'imagerie pancréatique. Donc, ce n'est pas le compte-rendu du scanner envoyé par mail qui va nous aider. Donc, il faut qu'on vous rencontre. C'est un peu compliqué, je suis d'accord, au moins une fois. Et après, on vous dira si c'est un traitement endoscopique, bah, très bien, Medicacy et Actually peut très bien le faire. Si c'est une chirurgie pancréatique facile, ça peut être fait à peu près n'importe où. Si c'est de la chirurgie pancréatique un peu plus compliquée, comme la duodéno-pancréatectomie céphalique, la DPC, là, il y a vraiment intérêt à aller dans un grand centre qui fait ça deux fois par jour. Voilà. Mais je pense que c'est compliqué. En tout cas, ce n'est pas un mail où, dans un mail, on va dire « Ok, on vous voit », mais c'est très difficile de répondre à une question technique par mail sans vous avoir rencontré et sans avoir vu l'image.
Je peux rajouter un argument pédiatrique. On est en train de mettre en place. Alors, les maladies rares sont prises en charge par des réseaux qui sont en train de se monter sous l'égide du ministère, enfin qui se montent depuis un moment sous l'égide du ministère, qu'on appelle les centres de maladies rares. Et les centres de maladies rares digestives pédiatriques s'appellent les MARDI. Ces MARDI sont en train de créer un réseau national de compétences centrées sur des centres experts qui vont permettre, si vous voulez, de servir de référentiel. Et ce qu'on est en train de mettre en place là, à Robert-Debré, c'est un réseau télématique qui permettra aux hôpitaux de la France entière de nous contacter, de nous transférer les images, et non pas seulement les comptes rendus, nous transférer les images, nous transférer les dossiers. L'échange ne se fait pas encore avec les patients, et je ne suis pas sûr que ce soit utile et souhaitable que ce soit directement avec les patients de la France entière, mais par contre, les médecins dans les hôpitaux pédiatriques qui auront une question concernant des maladies extrêmement rares, hein, la pancréatite héréditaire, pourront nous contacter, envoyer l'ensemble du dossier, y compris les images, enfin vraiment des arguments très très fins au niveau biologie, imagerie, etc., qui seront réanalysés par une équipe multidisciplinaire, chirurgicale, endoscopique, médicale, pour leur proposer une alternative et éventuellement un centre clé qui pourra répondre ou prendre en charge le patient. Donc des réseaux sont en train de se mettre en place. En tout cas, je peux vous parler de... des spécialités pédiatriques, j'imagine que chez l'adulte, des réseaux semblables, s'ils ne sont pas encore en place, sont en cours de construction. Donc les choses, malgré ma présentation un peu noire de tout à l'heure, les choses, on essaye d'améliorer les choses au fur et à mesure sur ces prises en charge qui sont très spécialisées et concernent des situations extrêmement rares pour lesquelles il faut être extrêmement adaptatif, comme le disait M. Lévy.
Dernier point, en tout cas sur ce sujet, être transparent, c'est-à-dire que si vous sentez que la prise en charge locale ne vous convient pas, il faut dire au médecin, il faut dire au chirurgien, excusez-moi, je préférerais prendre un avis. Si le chirurgien ou le médecin se vexe, vous lui demandez, quand il a acheté sa dernière voiture, combien il est de concessionnaire. Et que quand c'est sa peau, quand c'est avant d'avoir une chirurgie pancréatique, on a la chance en France, c'est pas le cas partout, d'avoir le droit d'aller prendre un avis ailleurs. Il faut le faire. Alors, parfois, ça coûte 200, 300, 400, 500 km à faire, mais ça peut avoir la peine. En attendant, effectivement, la mise en place de ces réseaux télématiques qui seront sûrement plus performants.
Je peux faire un témoignage, en fait, qui va dans votre sens. Moi, j'ai eu une opération où on m'enlevait 50% du pancréas. Bon, je fais très bien maintenant, j'ai plus de douleur. Et je suis tombé dans le cas justement où c'était sur Le Mans. Je sentais que les spécialistes n'étaient pas au niveau et j'ai fait le forcing pour qu'ils s'adressent à un centre spécialisé à Paris. Et du coup, j'ai été vu par le professeur Lévy et j'ai été opéré sur Paris. Parce que je sentais bien que c'était la première fois qu'il rencontrait mon cas. Et ils ne savaient pas en plus que j'étais une pancréatite héréditaire. Donc vraiment, ils étaient... ils étaient surpris, ils étaient contents finalement d'avoir ce genre de cas parce que ça changeait, mais ils n'étaient pas assez armés pour attaquer le sujet. Je préférais qu'ils s'adressent à des gens qui savent. Et donc j'ai fait le forcing et je pense que j'ai bien fait. Voilà. Après, donc c'est aussi à vous, je pense, de faire entendre votre voix. Si vous pensez que vous n'êtes pas d'accord, ben vous devez vous affirmer. Comme moi, j'avais 24 ans quand j'ai eu ça. Et j'ai fait le forcing, et depuis, je ne regrette pas du tout. Voilà.
Si vous vexez les gens, ce n'est pas votre problème. C'est leur problème. Oui. Vous avez rien à dire.
J'ai peur de rien.
Pas de Lyon. Alors, à Lyon, effectivement, il y avait un très bon chirurgien auquel je crois que vous avez eu affaire, qui était Christian Partanski, qui est maintenant à la retraite. Dans les hôpitaux publics de Lyon, il n'y a plus de spécialistes du pancréas. Enfin, il y a Adam, un peu, qui est quand même très bien, mais qui est très chirurgien. Un chirurgien très chirurgien. Et pour les endoscopistes, il se trouve que c'est surtout des endoscopistes installés en privé, à l'hôpital Jean Mermoz. Ils sont très bien, très très bien. Mais ça, encore une fois, c'est aussi quand on a connu Nadine Mellet, une des premières questions qu'elle nous a posées, c'est donnez-moi des noms de spécialistes dans les différents endroits. Donc si vous la contactez en disant je suis à Lyon, je suis à Saint-Etienne, je suis à. Il ne faut pas parler de Lyon et de Saint-Etienne dans la même phrase, mais c'est pas grave. Enfin, je suis à Lyon, je suis à Limoges, je suis à Strasbourg, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre en charge tel problème? Bon, voilà, c'est la question nous est remontée et on essaie de répondre.
Après, voilà, c'est pas parce qu'on est dans une grande ville ou un CHU. Je pense qu'à Cholet, il y a des gens qui connaissent beaucoup, beaucoup mieux cette maladie que des tas de grands professeurs parisiens. Donc il y a aussi l'expertise du centre, il y a l'expertise de la personne. Voilà, donc là, vraiment, voilà, il n'y a pas une règle, on ne peut pas vous dire. Il faut être professeur à Paris, là vous serez bien pris en charge, c'est la panacée. Il y a de très mauvais professeurs à Paris, comme il y a des très bons médecins, docteurs partout en France. Donc ça, c'est le réseau, c'est la connaissance, c'est voilà, c'est les forums, c'est les associations de patients, c'est, on peut vous orienter. Voilà, il ne faut pas non plus dire j'ai été soigné par un professeur à Paris. Voilà, ce n'est pas nécessairement un gage de qualité. Il y a des très bons médecins à côté de chez vous et ça, il faut, faut le savoir. Et voilà, il y a, c'est les réseaux de maladies rares. Et voilà, il faut. Et après, effectivement, la proximité peut être aussi une source de confort. C'est-à-dire que si chaque fois vous avez mal au ventre, c'est prendre la voiture pour aller prendre le TER, pour aller prendre le TGV. Ça aussi une vie, et il faut avoir un médecin référent local qui fera la gestion du quotidien, qui, si cette opération d'une complexité extrême, vous adressera au bon endroit. Si c'est une pancréatectomie gauche classique, un chirurgien d'un centre de moyen volume peut bien le faire. Voilà, enfin, c'est à moduler au cas par cas, personne par personne, situation par situation.
Tout ce qu'on vous dit, c'est des notions statistiques, c'est-à-dire que ce qu'a présenté Sébastien a maintenant, on sait que quand on est opéré en moyenne dans un petit centre, il y a plus de risques de complications dans un grand centre. Et les risques, ce n'est pas de la chirurgie esthétique, hein, ce n'est pas à refaire le nez, c'est des vrais gros risques. C'est ça les différences entre les petits centres et les gros centres. Le problème, c'est que quand on est dans un petit centre, s'il y a des complications, c'est pas toujours le chirurgien. Il y avait même un vieux travail qui avait montré qu'il valait mieux être opéré par un jeune chirurgien dans un grand centre que par un vieux chirurgien très expérimenté dans un petit centre. Le problème, c'est que si ça se complique à 2h du matin, il faut qu'on puisse faire un scanner à 2h du matin, il faut qu'éventuellement un radiologue puisse intervenir à 2h du matin pour boucher une artère qui saigne sans réopérer. C'est tout ça qui fait l'ensemble. Quand ça se passe bien, ça se passe bien.
Je suis suivie par le docteur Lorrain. Ça doit être le professeur Lebodic avec le docteur Cornet qui va l'opérer.
Maintenant, il y a le docteur Régenet à Nantes qui fait très bien la chirurgie pancréatique, que je connais bien. Enfin, après, c'est un petit monde, la chirurgie pancréatique, c'est-à-dire qu'on se connaît tous le monde de la pancréatologie. Voilà. Mais à Nantes, il y a Nicolas Régenet qui fait très très bien, qui a, c'est pas l'ensemble de son plateau technique, mais là, voilà, si je dis, c'est pas la compétence d'un chirurgien, je veux dire, c'est. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas à mon hôpital, mais je sais que s'il y a un souci, il y aura un interne 24 heures sur 24 sur place, un chef de clinique 24 heures sur 24 sur place. S'il faut aller mettre une petite fille dans un artère qui saigne, j'aurai un radiologue d'Astrand qui viendra à 2h du matin. Ou s'il y a la moindre hémorragie la nuit à 2h du matin, le scanner, il est ouvert, il tourne. Voilà. Donc ça, c'est un gage de qualité et de sécurité pour les patients, indépendamment de la compétence technique du chirurgien.
Une autre question, c'est quand vous intervenez chez la chirurgie, excusez-moi, est-ce que c'est hors crise à chaque fois ou pendant les crises vous venez à...
Alors, généralement, quand on opère sur la douleur, ce genre de choses, c'est à froid, c'est-à-dire qu'une fois que la situation est aiguë, et calmer l'épisode douloureux, il y a une énorme inflammation autour, c'est le moins bon moment chirurgicalement pour intervenir. Ensuite, il y a des situations très particulières, le pseudo-kyste, thrombule, le pseudo-anévrisme hémorragique, etc., dans lequel on peut être amené à intervenir en urgence, mais l'immense majorité des situations, des chirurgies qu'on fait sont à froid, on vous a vu en consultation, on a planifié une date, vous êtes organisé, etc. L'âge de déclaration de la maladie, ça peut être très tôt dans la vie, à 2 ans. Et après, c'est d'autant plus tôt, finalement, qu'on sait qu'on a une pancréatite chronique héréditaire et que le médecin est au courant, vous avez un bon médecin qui a pensé au diagnostic, etc. C'est vrai que, voilà, à 2 ans, des enfants qui ont mal au ventre, ça arrive, hélas, c'est-à-dire, peut-être jeune papa ou papa dans la salle,
L'enfant qui a mal au ventre à 2 ans, ça arrive pour des tas de raisons, mais c'est vrai que c'est tout l'intérêt d'avoir informé son médecin, d'y avoir pensé, etc.
On revient à la question de tout à l'heure, à la difficulté de tout à l'heure. Vos enfants portent la mutation du gène, PRSS1. Vous les amenez voir un docteur parce qu'ils ont mal au ventre. Et là, le docteur, OK, il y a le gène, il est là, c'est clair, il est muté, la douleur est présente. Mais comment faire la différence entre la douleur abdominale de l'enfant, monsieur et madame tout le monde, sans la mutation, et une pancréatite, enfin une poussée de pancréatite due au gène. Donc effectivement, il y a des dosages enzymatiques du pancréas qui sont très évocateurs de l'atteinte pancréatique, mais si on sait que 30% des pancréatites chroniques héréditaires ne font pas de poussée de pancréatite aiguë, donc on peut très bien avoir des douleurs abdominales sans élévation des enzymes, est-ce qu'il faut le corréler au gène ou pas? Ça devient compliqué. Et donc, faire la différence n'est pas toujours très simple. Du fait de la fréquence de la douleur abdominale chez l'enfant.
Tous les ans une crise de pancréatite. Est-ce qu'on doit consulter, qu'est-ce qu'on doit faire, parce qu'elle a déjà été hospitalisée à Cholet, donc Cholet nous ont dit avant 16 ans, elle est considérée, 15 ans, elle est considérée comme une jeune, un enfant, quoi. Donc ils n'ont pas intervenu. Comment doit-on faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit vraiment aller plus loin ou,
Je n'ai pas parfaitement compris si votre question concernait la fréquence des crises ou l'âge, le problème de l'âge.
Au départ, elle le fait tous les ans, à peu près à fin d'hiver, et elle a commencé vers 14 ans, 15 ans. Alors, au départ, on était au centre à Cholet, on nous a dit qu'elle était plus considérée comme un enfant, on ne pouvait pas trop intervenir. Et là, c'est régulier, maintenant elle a 17 ans, et on voudrait savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on doit consulter? Est-ce qu'on doit faire une intervention?
On va faire une réponse globale, je pense, parce que là, il faut vraiment qu'on fasse du multidisciplinaire. Alors, partons de la situation administrative pure. La pédiatrie s'arrête à 15 ans, d'après la loi, ce qui est une ânerie sans nom, à mon sens. On a l'habitude de considérer que la pédiatrie s'arrête en pratique à la fin de la croissance. Un collègue adulte, un organisme qui grandit, pour eux, c'est une pathologie. Donc, on a tendance, tant que les enfants grandissent, à considérer qu'ils sont encore du domaine de la pédiatrie, pour gérer cette croissance qui nous est un peu spécifique. Maintenant, j'ai envie de vous dire, allez voir, surtout à cet âge-là, qui est un peu ambivalent entre 16 et 17 ans, on va dire la fin de la croissance, l'essentiel doit être fait, aller voir les gens qui savent gérer du pancréas. Et si ce sont des gastroentérologues d'adultes, allez voir des gastroentérologues d'adultes. Après, la difficulté va être pour eux de convaincre dans certains centres les anesthésistes, s'il y a besoin d'une anesthésie pour faire une endoscopie de la chirurgie ou que sais-je, en fonction de la situation de votre enfant, la difficulté va être de convaincre les anesthésistes d'adultes d'endormir un enfant. Là, de temps en temps, c'est un peu compliqué. Mais stricto sensu, si vous oppose le fait qu'à 16 ans, c'est encore de la pédiatrie, légalement, c'est faux. Dès qu'on a 15 ans révolus, on n'est plus de la pédiatrie. C'est-à-dire à 16 ans plus un jour, on ne fait plus partie de la pédiatrie légalement. Mais ma réponse, c'est aller voir les gens qui savent.
Et quant à savoir s'il faut intervenir ou pas, on ne peut pas vous dire en général. Je dirais qu'une crise par an, si cette crise n'est pas trop sévère, j'aurais tendance à ne pas faire grand-chose d'agressif. Quoi. Si c'est une crise par semaine, non, comment ça...
L'opération de délégation dont on a parlé tout à l'heure ne peut pas être faite préventivement pour quelqu'un qui fait une crise par an.
Si c'est une crise par an qui se gère par 3 jours d'arrêt de travail et un peu de doliprane, on ne sera pas très tenté d'opérer ou de proposer un traitement à cette patient. Alors ça, non, enfin, ça a été très débattu, mais d'abord il faut que l'opération soit faisable. La dérivation dont a parlé Sébastien Boulou, il faut que le canal pancréatique soit suffisamment dilaté. S'il n'est pas dilaté, ils ne peuvent rien faire. Donc déjà, il faut qu'il y ait cette condition anatomique. Et la deuxième chose, c'est qu'en termes de préservation des fonctions du pancréas, ça a été très débattu, mais il semble que la chirurgie
ne préserve pas les fonctions pancréatiques. Le fait de faire la dérivation plus tôt ne limite pas le risque de diabète ou de dérégulation.
Et c'est certain que, en tout cas, voilà, alors là c'est difficile sans voir un scanner, une IRM, mais que à une crise par an, très probablement que c'est la chirurgie, la solution, surtout à 16 ans, où c'est des chirurgies agressives, qui ont des conséquences, des patients qui peuvent être amenés à voir la chirurgie plus tard pour des bonnes raisons. Et donc à 16 ans pour une crise par an, la chirurgie ne me semble pas en tout cas être nécessairement la bonne solution. Qui est un peu délicate, celle de la transition, c'est-à-dire globalement du passage du monde de l'enfance au monde de l'adulte. Vous savez que les hôpitaux pédiatriques sont souvent un peu protégés, ont des moyens supplémentaires, il y a peut-être des gens qui ont un peu plus d'humanité parfois. Enfin, c'est des environnements qui sont peut-être en tout cas moins agressifs que les hôpitaux d'adultes. C'est vrai qu'un enfant qui a été suivi de ses 5 ans à ses 15 ans par un même médecin qui connaît par cœur son dossier médical, qui n'a pas besoin de réouvrir pour une solidité, le passage au monde adulte, et peut-être tu pourras en parler mieux que moi, mais c'est vrai que c'est angoissant pour la famille, pour le médecin d'adulte qui va se retrouver parfois avec des moyens qui ne sont pas ceux de l'hôpital d'enfant sur un dossier qui fait déjà 2500 pages, avec 2500 pages à refeuilleter pour se remettre dans ce qu'on appelle l'histoire de maladie. C'est extrêmement complexe, et que ce soit pour les médecins, pour les patients, pour les familles, c'est parfois extrêmement angoissant.
J'ai une question pour bien comprendre votre situation. Les prothèses étaient remises en place régulièrement, mais par un endoscopiste d'adulte. Le monsieur qui nous racontait son histoire.
Excusez-moi. Oui, et c'est à la fin, en fait, il est toujours sous l'égide, en fait, de l'ensemble pédiatrique.
D'accord.
D'accord. Donc c'est un peu compliqué. Une fois, deux fois, trois fois, il fallait les retirer parce que ça touchait. Il fallait réintervenir. Ça devenait plus supportable. Et là, en fait, il a été décidé de basculer les adultes. Définitivement, elle est passée dans les mains d'un chirurgien, donc par principe, elle peut, et puis parce que c'était plus supportable. Donc, c'est pour répondre en même temps, quand c'est isolique et puis qu'on arrive à gérer, entre guillemets, je vais passer sur une dérivation, c'est pas simple non plus, hein, c'est un acte qui n'est pas.
Mais nos collègues pédiatres qui discutaient avec l'endoscopiste qui posait les prothèses, j'imagine, réalisaient une réunion multidisciplinaire intégrant des chirurgiens.
Oui, mais c'était dans le cadre de la fédération digestive.
Ça, c'est des exemples qu'on a souvent, c'est-à-dire que la chirurgie pancréatique a très longtemps une très mauvaise réputation, parce que c'est une chirurgie complexe. Et souvent, les endoscopistes qui avaient eu parfois de mauvaises expériences passées, garder les patients en disant on va changer votre prothèse, c'est juste une petite anesthésie, etc., etc. Ils arrivent à la chirurgie très très tard. Ce qu'il faut, là, des messages que j'aimerais faire passer, je ne dis pas que la chirurgie doit se substituer à toutes les prothèses, et ça bien entendu que non, mais qu'au bout d'un certain nombre d'échecs de prothèses, probablement qu'une chirurgie unique, ponctuelle et une dérivation règle le problème, si ce n'est définitivement pour quelques dizaines d'années, sans aller voir tous les 3 mois un endoscopiste pour un changement de prothèse.
Donc la question de madame qui a eu 48 prothèses en 4 ans. Est-ce que la présence d'une mutation du gène de la mucoviscidose modifier l'attitude thérapeutique parce que, effectivement, dans la mucoviscidose, le suc pancréatique, le liquide pancréatique est un peu plus épais. En fait, dans la pancréatite chronique, quelle qu'elle soit, la viscosité du liquide pancréatique est différente. Bon, il n'y a aucun travail qui répond à votre question. Par contre, si on vous avait dit on vous opère tous les deux mois et on opère tous les deux mois et 4 ans plus tard ça marche toujours pas, je pense que vous diriez j'en ai un petit peu marre de me faire opérer. C'est la même chose pour le traitement endoscopique. Quand on a 40 prothèses dans son passé, il faut se poser la question, est-ce que c'est le bon traitement? Et vous avez la réponse.
Ouais.
Oui, oui. J'entends bien. Mais clairement, la présence du gène, la mutation du gène de la mucoviscidose, aujourd'hui, n'est pas un argument pour choisir tel ou tel traitement. Non.
Nous, du point de vue chirurgical, en tout cas, on ne propose pas des chirurgies, enfin, hormis pour le risque de cancer, mais sur des mutations, on le propose sur des considérations anatomiques. Et vous disiez, il faut que le pancréas soit dur pour que la couture tienne, il faut que le canal de Wirsung soit dilaté, parce que si vous avez un canal qui fait 2 mm, aller le dériver, c'est un non-sens, il faut qu'il y ait des anomalies. Donc, on est vraiment sur des considérations anatomiques qu'on évalue au mieux par l'IRM. On évite de faire des scanners parce que ça irradie sur un pancréas, donc on fait des irradiations sur un pancréas qui est déjà malade, donc on évite. Et sur les IRM, on a une très bonne image du parenchyme pancréatique, des canaux. Et on est, voilà, on est vraiment, en tout cas, la chirurgie de la douleur, sur des considérations anatomiques plus que génétiques. Pour ce qui est du risque de cancer, c'est un peu différent parce que on sait que certains gènes exposent à des risques un peu plus importants que d'autres. Mais voilà, en tout cas, pour la douleur, l'obstruction, l'obstacle, c'est vraiment l'anatomie, la radiologie qui va dicter le geste chirurgical.
Juste un petit commentaire, car notre service est aussi un gros centre de CRCM. On connaît bien la mucoviscidose. Une petite confusion, oui, pardon, centre de ressources et de lutte contre la mucoviscidose, le CRCM. Juste une petite précision, mais nos collègues généticiens vont être beaucoup plus performants que moi pour nous expliquer ça tout à l'heure. Les mutations impliquées dans la mucoviscidose, alors le gène considéré est le gène CFTR. Sur ce gène CFTR, certaines mutations sont corrélées avec la mucoviscidose et en fait les mutations qui sont corrélées avec la pancréatite chronique héréditaire ne sont pas forcément celles qui donnent la mucoviscidose, bien que ce soit le même gène. Pour vous illustrer ça, donc il y a une grosse... Alors après, il y a certaines mutations de muco qui peuvent donner une PCH, d'accord ? Donc ça dépend vraiment de la situation génétique de votre famille, hein. Mais la grande majorité des mutations génétiques du CFTR qui donnent la PCH ne donnent pas la muco. Donc ce n'est pas cumuler les deux maladies. Des fois ça arrive, mais c'est relativement rare. D'accord ? Donc la majorité des cas, parce qu'il ne faut pas confondre le gène CFTR muté et avoir une mucoviscidose. Je voudrais séparer un peu ces deux concepts-là. Des fois ça se marche dessus, des fois c'est en commun, mais pas toujours. Pour une image un peu statistique, un peu globale, donc il y a une grande étude américaine, nord-américaine, qui est Inspire, qui a repris 300 patients, 300 enfants atteints de pancréatite chronique, pas que héréditaire, mais chronique, qui ont remarqué que chez les enfants qui avaient une mutation CFTR corrélée avec leur pancréatite chronique héréditaire, seulement 2 sur les chiffres exacts, une quarantaine, si je me souviens bien. Seulement 2 avaient une anomalie du test de Lasser, qui est le marqueur biologique de la maladie. Donc, de la mucoviscidose. Donc, c'est pas parce qu'on a une mutation génétique du CFTR et une PCH que cette mutation va favoriser l'évolution vers quelque chose qui peut ressembler à la mucoviscidose. D'accord ? Donc, en général, dans les PCH par mutation CFTR, il n'y a pas de pathologie pulmonaire de la mucoviscidose, par exemple.
Sachant que là aussi, on progresse énormément. Pour donner aussi une lueur d'espoir, on est parfois un peu avant la mucoviscidose. Je veux dire, moi, nous, on est un centre qui fait beaucoup de muco chez l'adulte à Cochin. Et avant, il y a 10 ans, le pneumologue qui s'occupait de la mucoviscidose, le pancréas, c'était un organe qui ne concernait pas le diabète parce que, hélas, on mourait relativement tôt de cette maladie. Maintenant, il y a des traitements en fonction des classes de mutations, des traitements ciblés. Enfin, la mucoviscidose, il y a 30 ans, ce n'est pas la mucoviscidose d'aujourd'hui. Donc, l'histoire naturelle dont on vous parle, elle évolue avec la maladie. Et très probablement, dans 10, 15, 20 ans, on le verra, je le verrai, il y a des gens qui ont une mucoviscidose avec des problèmes pulmonaires qui auront peut-être aussi des problèmes pancréatiques, on sera peut-être amené d'opérer. Alors que, voilà, aujourd'hui, on guérit, le diabète dans la muco, c'est un vrai problème qu'on prend en charge, qu'on prend des problèmes peut-être pas en charge il y a 20 ans parce que le problème était purement respiratoire. Donc on progresse énormément. Quand on progresse, ben, la maladie change, les problèmes changent et on s'adapte, etc. Il y a d'énormes progrès qui sont faits, probablement insuffisants ou suffisamment rapides de notre opinion et probablement de la vôtre aussi. Mais on progresse. Du coup, une maladie qui a totalement changé en l'espace de 15 ou 20 ans, qui, j'espère, changera encore au cours des 20 prochaines années.
Ah, mais ça existe. Il y a quelques mutations, RNS, 122H, entre autres, mais il y a quelques mutations qui peuvent marcher dessus. Classiquement, la mucoviscidose qui est une atteinte de plusieurs organes, pulmonaire, on va dire les deux centraux étant pulmonaire et pancréatique, la grande majorité des mutations de la vraie mucoviscidose pure et dure, on va dire, l'atteinte pancréatique est tellement sévère que le pancréas est totalement détruit au niveau exocrine en quelques semaines et peut-être parfois en anténatale, et donc on ne peut pas faire pancréatite, parce que le pancréas ne peut plus s'abîmer plus, si vous voulez. Donc la grande majorité des mutations qui donne l'atteinte globale pulmonaire, pancréatique, etc., ne donne pas de pancréatite, ni chronique. D'accord ? Donc, l'élément que je veux vous transmettre, c'est que quand on a des mutations du CFTR qui donnent des PCH, il n'est pas obligatoire de développer une mucoviscidose au sens atteinte de plusieurs organes, dont le poumon. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que dans l'esprit des gens, et c'est la réalité, la mucoviscidose, c'est une maladie pulmonaire associée à une maladie pancréatique. D'accord ? Donc ça ne rajoute pas un surrisque dans la plupart des mutations impliquées dans la PCH.
Nadine, on arrête là pour l'instant, on va se garder des questions pour cet après-midi, puisqu'il y a...
Un vrai grand merci à chacun de vous. Bravo et merci.